Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, lundi 3 décembre 2018, Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, Burkina Faso, une attaque contre une patrouille de gendarmes a entraîné la mort de 6 assaillants à Bougui, dans l'est du pays. Togo, l'opposition qui demande l'arrêt du processus électoral, appelle à une journée Togo mort demain. Et ici aux États-Unis, une semaine d'hommage national à George Bush, décédé vendredi à 94 ans. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, 4 soldats et 14 rebelles ont été tués dans l'est du pays dans des combats entre l'armée et des miliciens Yakutumba dans le territoire de Fizi, province du sud Kivu. C'est ce qu'ont indiqué des sources militaires. Les Yakutumba sont regroupés autour d'un ancien officier qui s'est retourné contre le président Joseph Kabila. Il serait allié aux rebelles du Front National de Libération du Burundi voisin, selon plusieurs sources de la région interrogées par l'AFP. 6 assaillants ont été abattus ce lundi à Bougui, dans l'est du Burkina Faso, lors d'une attaque contre une patrouille de gendarmes. On fait le point avec Nani Talani.
Une patrouille de la gendarmerie de Fadangourma, à 220 km à l'est de Ouagadougou, est tombée ce matin dans une embuscade dans le village de Bougui. Les assaillants ont ouvert le feu au passage du convoi, endommageant le véhicule de tête. Mais selon une source sécuritaire, les éléments de la gendarmerie ont aussitôt réagi, neutralisant 6 assaillants et un gendarme a été blessé. Plusieurs armes, dont des kalachnikovs et des cartouches, ont été saisies. L'équipe de la gendarmerie se rendait au campement de chasse de Sindou pour démanteler une cache d'armes, a expliqué un responsable local. Vendredi, 5 personnes, dont 4 gendarmes, ont été tuées par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule à Bungu, dans l'est du pays. Depuis début octobre, 22 autres personnes, dont 21 membres des forces de sécurité, ont été tuées par des explosifs artisanaux, dont des attaques attribuées à des djihadistes. Selon un bilan officiel établi fin septembre, ces attaques ont fait 229 morts depuis 2015.
François Compaoré saura mercredi si la justice accepte de l'extrader vers le Burkina Faso. Frère de l'ancien président déchu Blaise Compaoré, il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 98. Il avait été arrêté il y a plus d'un an à l'aéroport parisien Roissy Charles de Gaulle. Côte d'Ivoire, 6 élections municipales et 2 régionales annulées en octobre auront lieu le 16 décembre, c'est ce qu'indique le gouvernement. La campagne électorale durera 7 jours, du 8 au 14 décembre. Des troubles dans plusieurs régions avaient provoqué l'annulation de ces scrutins. Au Togo, la principale coalition de l'opposition appelle à une journée Togo mort demain, jour de l'ouverture de la campagne pour les législatives du 20 décembre. Elle entend demander l'arrêt du processus électoral auquel elle refuse de participer. Les précisions de John Lindon.
Mardi doit être un grand jour, un jour de honte pour ceux qui croient qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent du destin de ce peuple. Tels sont les propos de Mme Brigitte Adjamabo-Johnson, coordinatrice de cette coalition. Nous ne voulons pas d'élections frauduleuses dans ce pays. La prochaine étape, c'est la journée Togo mort que nous avons décrétée pour le 4 décembre, a-t-elle poursuivi. Samedi, des manifestations massives de partisans de ce regroupement de 14 partis politiques d'opposition ont eu lieu pour la 3e fois en 15 jours à Lomé et dans d'autres villes. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante et la reprise de toutes les activités déjà menées par cette institution. Hier dimanche, Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement, a affirmé que les législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre, ajoutant que l'État a pris toutes les dispositions et mettra tout en œuvre pour sécuriser le processus électoral, garantir son bon déroulement et son aboutissement.
Le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie se réuniront mercredi et jeudi à Genève. Une table ronde organisée à l'initiative d'émissaires de l'ONU, Horst Köhler. L'objectif est de relancer les négociations sur le territoire disputé du Sahara occidental, au point mort depuis 2012. Il s'agit du dernier territoire du continent africain en attente d'un statut post-colonial. Campagne électorale en République démocratique du Congo. Un accord a été trouvé entre la coalition Lamuka, qui porte le candidat de Martin Fayoulou à la présidentielle, et l'autorité de l'aviation civile concernant les avions de l'opposant. Il devrait disposer de tous les appareils loués pour sa campagne électorale. Entre-temps, le candidat Félix Tshisekedi se lance dans la campagne ce mardi par la ville de Goma. Ramazani Shadari, le candidat de la coalition au pouvoir, lui, attaque l'ouest du pays. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après plusieurs jours de discussions et d'accusations mutuelles, la coalition Lamuka et le gouvernement à travers l'autorité de l'aviation civile se sont mis d'accord sur l'autorisation aux avions loués par le candidat Fayoulou de survoler l'espace aérien congolais. Ces avions, au nombre de 3 et en provenance d'Afrique du Sud, selon un porte-parole du candidat Fayoulou, devront assurer le déplacement du candidat commun de l'opposition avec son équipe de campagne à travers toute la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou, qui a été rejoint ce lundi par le sénateur Jean Mabaya, candidat président de la République, qui s'est désisté pour soutenir le candidat de la coalition Lamuka. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, le candidat du ticket UDPS-UNC, a, après un premier meeting dimanche dans un quartier périphérique de Kinshasa, confirmé le début de sa campagne pour ce mardi 4 décembre à Goma, au Nord Kivu. Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, quant à lui, se lance ce mardi à la conquête de la partie ouest du pays. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, hommage national d'une semaine à George Bush, l'ex-président américain décédé vendredi à 94 ans. Ce lundi, le transfert de son cercueil du Texas à Washington se fera à bord de l'avion présidentiel prêté pour l'occasion par Donald Trump. Raissa Girondin.
Le 41e président américain, George Herbert Walker Bush, sera enterré selon le protocole des obsèques d'État. L'actuel occupant de la Maison-Blanche, Donald Trump, a demandé à ce que le Boeing 747 présidentiel aille chercher le cercueil au Texas pour le ramener à Washington. George W. Bush, fils aîné du défunt et 43e président américain et des proches, doivent voyager à bord d'Air Force One. Le cercueil sera exposé en chapelle ardente sous la coupole du Capitole à partir de lundi soir, placé sous très haute sécurité. Mercredi, journée de deuil national, les funérailles prendront place dans la cathédrale nationale à Washington, comme pour ses prédécesseurs Eisenhower, Reagan et Ford. Ex-président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan, George H.W. Bush est mort vendredi à l'âge de 94 ans, quelques mois après le décès de son épouse Barbara. Son mandat a été marqué par la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne. Il restera également dans l'histoire pour avoir engagé les États-Unis dans la libération du Koweït après l'invasion de ce pays par les troupes irakiennes de Saddam Hussein.
Le ministre des Affaires étrangères mexicain a rencontré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à Washington. Le Mexique et les États-Unis sont à la recherche d'une solution face à l'arrivée de milliers de migrants venus d'Amérique centrale, stationnant à la frontière entre les deux pays. Washington souhaite que son voisin accepte un accord visant à ce que les demandeurs d'asile restent au Mexique en attente d'un examen de leur requête aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a affiché aujourd'hui sa volonté de travailler avec ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine pour mettre fin à une course aux armements devenue incontrôlable, dit-il. Et Yémen, le médiateur de l'ONU, Martin Griffiths, est arrivé dans la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis, qui ont pu évacuer 50 de leurs combattants blessés dans le cadre de mesures de confiance à l'approche de possibles pourparlers de paix en Suède. L'initiative doit accélérer la tenue de pourparlers pour mettre fin à de longues années de guerre qui ont épuisé et affamé la population. C'est ce qu'estiment des experts. Les alliés de l'OTAN sont très préoccupés par l'agressivité de la Russie et prendront les mesures pour assurer leur défense, mais avec le souci d'éviter une escalade dangereuse et de rester unis. C'est ce qu'annonce le secrétaire général de l'Alliance. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine en mer d'Azov et le déploiement de nouveaux missiles par la Russie en violation du traité de 87 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire seront les deux principaux sujets d'une réunion des ministre des Affaires étrangères de l'OTAN mardi à Bruxelles. Mais les États-Unis ont également demandé une discussion sur les dépenses militaires, sujet de contentieux avec plusieurs capitales européennes, et une explication sur les initiatives européennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Au Cameroun, 4 banques locales ont mobilisé 120 milliards de francs CFA pour participer au financement du projet de construction du barrage de Nachtigal de 420 MW dans le centre du pays, selon l'agence Ecofin. Mobilisé par SCB Cameroun, Standard Chartered Bank Cameroun, BICC et Société Générale du Cameroun, ces financements sont entièrement garantis par la Banque mondiale. Les travaux de construction de ce barrage devraient débuter au cours de ce mois de décembre et durer 5 ans 7 mois. La multinationale pétrolière Shell veut se fixer dès 2020 des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans 3 à 5 ans, dont la réussite conditionnera le salaire de ses dirigeants. Elle veut réduire de moitié l'empreinte carbone de ses produits énergétiques d'ici à 2050, avec une première étape de 20% de réduction d'ici à 2035. Terminons avec le Qatar qui annonce qu'il quittera le mois prochain l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, afin de se concentrer sur sa production de gaz dont il est le premier exportateur au monde. En revanche, il ne dispose que de 2% des réserves mondiales d'or noir et 17e producteur mondial. Certains experts estiment que la décision du Qatar de sortir de l'OPEP devrait avoir peu de répercussions sur le marché pétrolier.
Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La CAF a disqualifié la Sierra Leone de la CAN 2019.
La Sierra Leone est disqualifiée des éliminatoires et les résultats de ces matchs sont annulés, a déclaré la CAF dans un communiqué. Cette disqualification entraîne la qualification du Kenya et du Ghana qui occupent les deux premières places du groupe F. La CAF ne précise pas la raison pour laquelle la disqualification a été décidée, mais la Sierra Leone est suspendue par la FIFA pour ingérence gouvernementale. L'instance mondiale reproche en effet aux autorités l'éviction de la présidente de la Fédération Sierra Leonaise de football, Isha Johansen, et son secrétaire général Chris Camara, par le ministre des Sports pour des soupçons de corruption, matchs truqués et direction défaillante.
On aura le choc nord-africain Espérance Tunis, Raja Casablanca en Supercoupe d'Afrique.
Oui, après le sacre de l'Espérance Tunis le mois dernier en Ligue des Champions, le Raja Casablanca a remporté hier la Coupe de la CAF. Comme chaque année, les deux lauréats vont s'affronter à l'occasion de la Supercoupe. Toutefois, la date de la rencontre n'est pas encore précisée. Initialement prévue le 29 décembre, le comité exécutif de la CAF devait étudier vendredi son éventuelle reprogrammation au 4 janvier, mais l'instance n'a rien précisé pour l'heure à ce sujet.
En Europe, on connaîtra le Ballon d'Or France Football ce soir.
Et oui, le résultat du vote est très attendu puisque pour la première fois depuis 10 ans, le Ballon d'Or pourrait échapper à Messi et Ronaldo. Les Français Griezmann, Mbappé et Varane veulent y croire, mais des commentaires laissent à penser à un sacre du Croate Luka Modric. Dans la liste des 30 nominés, on retrouve deux Africains, Sadio Mané et Mohamed Salah.
Et puis, l'assistance vidéo à l'arbitrage s'invite en Ligue des Champions.
La VAR sera utilisée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en février 2019. L'UEFA avait déjà annoncé vouloir recourir à la VAR pour la prochaine édition de la Ligue des Champions en 2019-2020. L'assistance vidéo est déjà utilisée dans la plupart des championnats européens majeurs, comme en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie. L'UEFA a aussi confirmé son utilisation l'été prochain pour la finale de la Ligue Europa, le Final Four de la Ligue des Champions et l'Euro Espoir.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le procureur général de la République du Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président burundais Pierre Buyoya et ses autres personnalités militaires ou proches de lui. L'opposition parle de manipulation politicienne. Reportage de notre correspondant Christophe Kurunziza.
La nouvelle largement commentée à Bujumbura concerne ces mandats d'arrêt lancés contre les dignitaires des anciens régimes burundais avant l'éclosion de la démocratie en 1993. Pierre Buyoya, l'ancien président aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine au Mali, est en tête de liste des personnes recherchées. Si le pouvoir affirme vouloir mettre fin à l'impunité au Burundi, l'opposition parle, elle, de chasse à l'homme basée sur l'ethnie. Liberate Nzofava Rouché, 45 ans, et Tutsi, on a tué certains membres de sa famille juste après la mort de Ndadaye.
C'est bien que la justice travaille, mais après la mort du président Ndadaye, il y a des innocents qui ont été tués dans les collines par la milice Gédébou. Gédébou, c'était des jeunes démocratiques, Ufrodébou. Si la justice devait se faire, il faut qu'elle se fasse pour tout le monde, pour tous les Burundais. Sinon, c'est la justice des puissants qui ne ramène pas la paix pour tous les Burundais.
Syriac Nirinzomvamunda, juriste, insiste lui aussi pour une justice pour tous, comme le réclame le clergé burundais.
Vraiment, ceux qui ont assassiné Ndadaye, il faut quand même qu'ils soient punis. Si on punit ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce n'est pas seulement ceux qui ont commis les crimes. Il faut aussi que tous les côtés donc, soient jugés. Si on jugeait ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce ne serait pas une justice équitable. Il y a vraiment ceux qui ont commis les massacres, notamment à Bugendana. Je crois quand même que tous ceux qui ont tué, ils ont commis des crimes. Il faut quand même qu'ils soient jugés.
L'ancien journaliste Jean de Dieu Saint-Guillaume va aujourd'hui analyste de la politique burundaise, ne comprend toujours pas le pourquoi de cette mesure.
Comme beaucoup d'autres Burundais, je ne comprends pas tout de suite ce que visent ces mandats d'arrêt. Et ce qui revient à dire que finalement, il y a une main d'un politique. On veut nous faire oublier, comme si cela était possible, nous faire oublier des dossiers qui sont d'actualité, des dossiers qui devraient être mis en avant, que ce soit à Arusha ou ailleurs, sur la table des négociations pour être débattus, mais que la justice le fasse en toute indépendance. Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que c'est la décision qui a été prise par la justice burundaise que nous connaissons? Non. Et ça peut être dangereux. L'accord d'Arusha avait octroyé une amnistie provisoire pour tous ceux qui sont impliqués dans des situations qui ont tendé le pays. Alors maintenant qu'on a enterré l'accord d'Arusha, on vient de trouver l'occasion pour arrêter, pour punir, pour se venger.
Pour l'ancien président Pierre Buyoya, la justice risque une fois de plus d'être instrumentalisée au risque de ramener le pays dans des haines ethniques. L'Union africaine a appelé le gouvernement burundais à arrêter toute mesure qui vise à nuire à la recherche d'un consensus sur la crise actuelle. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le retrait vendredi de l'organisation de la CAN 2019 a été un coup dur pour le Cameroun. Le gouvernement a dénoncé samedi à Yaoundé la décision de la CAF d'injustice flagrante. Et dans les rues, les Camerounais ne cachent pas leur mécontentement. Illustration à Olembe, une banlieue de Yaoundé où un stade de 60 000 places qui devait abriter les matchs d'ouverture et la finale du tournoi est encore en construction. Reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Au lendemain du retrait de la CAN 2019 au Cameroun, le chantier d'Olembe est l'objet de toutes les attractions. Par petits groupes, ou seul, les riverains du chantier arrivent sur le site. Les mines sont tristes et le temps dur. Jarel et Edith font partie du groupe des visiteurs.
Le Cameroun n'est pas prêt à organiser cette canne.
Les travaux n'avancent pas comme il le faut.
Jean-Jacques, quant à lui, habite à une centaine de mètres du stade d'Olembe. Le cinquantenaire, main aux hanches, les yeux rivés sur le chantier du stade, est presque sans voix au regard de l'état d'avancement des travaux à Olembe.
Vous êtes déçu en tant que Camerounais du fait qu'on a retiré la canne?
À l'une des entrées qui conduit vers le futur complexe sportif d'Olembe, un autre groupe de jeunes gens commente la décision de la Confédération africaine de football. Daniel Mengue est le plus enthousiaste du groupe.
C'est un chantier que j'observe depuis un bon bout, mais je crois quand même que cela me semble assez insuffisant. Quand on ajoute à cela certains autres facteurs qu'on connaît, les problèmes urbains au Cameroun, l'insalubrité, l'état des routes qui peut être assez décevant, les transports et tout ça, je me dis que ça n'allait pas être une organisation assez réussie.
La CAN 2019, qui devait se tenir au Cameroun, était aussi un rêve pour les jeunes footballeurs de la Best Talent Sport Academy, un centre de formation qui tient chaque samedi des séances d'entraînement non loin du chantier du stade. Hervé Lando, promoteur de la Best Talent Sport Academy.
La CAN était comme un prétexte pour nous de créer cette émulation au sein de cette jeunesse et de leur permettre de rêver.
En prélude à la CAN 2019, la banlieue de Lembe s'est modernisée. Logements sociaux flambant neufs, villas en construction et routes spacieuses. Un gâchis selon Abdou et Armand, deux jeunes de la banlieue de Lembe qui crient à la conspiration contre le Cameroun.
Le Cameroun était victime d'un grand complot. Quand vous voyez vous-même l'état du stade, c'était comme ça avant. Ça veut dire que c'est presque fini.
Quand je regarde le stade, on était prêt.
Les autorités camerounaises, par la voix du porte-parole du gouvernement, ont qualifié la décision de la CAF d'injuste. Issa Tirouma, ministre de la Communication.
Cette décision étonnante à plus d'un titre ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays, ni à l'engagement déterminé du chef de l'État et du peuple camerounais pour abriter en 2019 une fête éclatante du football africain.
46 ans après avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun va devoir encore attendre avant d'espérer réunir une nouvelle fois l'élite du football africain. Emmanuel Jolta, de retour de la banlieue d'Olembe, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, comment améliorer la gestion des espaces terrestres frontaliers dans un contexte de conflits récurrents entre habitants et ces espaces et le contexte sécuritaire lié à la montée du djihadisme? La question est au centre d'une étude commanditée par la Commission nationale des frontières de Ouagadougou. Des détails avec notre correspondant Issa Napon.
Cette étude est menée par le programme d'appui à la gestion des frontières. Elle va être bénéfique à plusieurs titres au Burkina Faso, se réjouit le ministre en charge de l'administration du territoire, Siméon Sawadogo.
Aujourd'hui, cette étude va nous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments sur la démarcation et la délimitation de nos frontières de façon générale, de voir également comment les ressources naturelles partagées au niveau de ces frontières-là sont gérées avec les populations riveraines des différents pays concernés, et de voir également comment s'opère la migration des populations, sans oublier la coopération transfrontalière.
Edmond Sougué a conduit l'étude en procédure de validation. Il revient sur le travail qui a été fait.
On a voulu ressortir les principaux éléments juridiques sur la gestion des frontières au Burkina Faso. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de textes qui existent qui ne sont pas connus au niveau local, qu'il y a beaucoup de pratiques qui existent qui ne sont pas prises en compte dans les textes. Il y a beaucoup d'expériences de coopération transfrontalière, de commerce, de gestion des ressources naturelles, de l'eau, de la transhumance et tout, ne sont pas prises en compte. On a ressorti des difficultés, maintenant nous faisons des recommandations pour pouvoir améliorer.
La position géographique du Burkina Faso est un facteur de risque en termes de sécurité, avec des frontières peu contrôlées qui offrent aux terroristes des espaces où ils peuvent agir en toute impunité en se mêlant aux populations. Les forces de sécurité sont confrontées à des situations délicates, témoigne un des participants à l'atelier de validation, le lieutenant-colonel de gendarmerie, Kanou Koulibaly.
Il y a souvent des situations qui se posent. On se
demande quelles mesures il faut prendre. Quelqu'un qui arrive, qui a des papiers, rien n'est très clair dans ces documents, on est obligé de maintenir la personne alors qu'elle n'a rien à voir avec ces histoires d'insécurité.
Sans texte actualisé, difficile d'être efficace de la vie d'Augustin Tankwano, maire de la commune de Diapaga.
Je suis de la Tapoua, donc la zone de l'Est, vous voyez toutes les difficultés que nous avons, mêlées à toutes les agressions externes dans un paysage où le dispositif juridique n'est pas totalement très clair et ça ne permet pas donc souvent d'agir. En attendant, nous sommes tout le temps en concertation avec les autres présidents des collectivités des pays voisins, mais tout le monde est en alerte permanente pour non seulement tranquilliser ses frontières et tranquilliser aussi nos populations.
Cette nouvelle donne sécuritaire a aussi été épluchée dans le cadre de l'étude foi du responsable des experts Edmond Sougué.
On a pris en compte le volet sécurité, mais il y a des limites parce qu'on n'a pas eu accès à beaucoup d'informations, mais on a traité le volet sécurité en matière de texte existant et en matière d'éléments d'expérience pratique existant. Et maintenant, le challenge, c'est comment faire en sorte que les textes puissent favoriser plus la sécurisation des zones frontalières.
Pays enclavé, partageant plus de 6500 km de frontières terrestres avec 6 États voisins, le Burkina Faso se tient ainsi prêt à répondre aux enjeux actuels de gestion des espaces frontaliers marqués par la résurgence des conflits communautaires et surtout la menace terroriste et djihadiste. Issa Napouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Hommage national d'une semaine à George Bush, décédé vendredi à l'âge de 94 ans. 41e président américain, George Herbert Walker Bush, a dirigé les États-Unis de 89 à 93. Son mandat a été marqué par la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne. Il avait aussi engagé les États-Unis dans la libération du Koweït après l'invasion de ce pays par les troupes irakiennes de Saddam Hussein. Son influence sur les relations internationales. Idriss Fall fait le point avec Walid Fares, conseiller au Congrès américain.
Les historiens vont écrire sur la carrière du président George W. Bush comme le président qui a passé le monde libre de la guerre froide vers une période qui continue à se développer, qui est celle de la période internationale, des congrès internationaux, de la paix internationale. En fait, George W. Bush était le président qui a assisté à la fin de l'Union soviétique, qui a aussi été le commandant en chef de la coalition qui a libéré le Koweït en 1990, et il a joué donc un rôle important pour le passage de la guerre froide vers la période actuelle.
Pour le Moyen-Orient, il n'avait pas fini le travail pendant la guerre en Irak, dit-on.
Le président Bush a été le leader de l'Ouest qui a décidé de prendre une action pour libérer le Koweït des forces de Saddam Hussein, mais il était aussi très équilibré dans le sens qu'il n'a pas voulu faire une invasion de l'Irak au moment où beaucoup de forces alliées voulaient achever une deuxième guerre après celle du Koweït. Mais il y a eu des conséquences, comme nous le savons, en ce qui concerne les chiites et les kurdes de l'Irak. Mais ce que les historiens vont écrire plus tard va être les résultats. Et les résultats, c'est la libération du Koweït, mais c'est aussi la libération de l'Europe de l'Est.
Sur un autre plan, c'est lui qui avait tapé du poing sur la table pour ramener Israël à la table de négociation avec les Palestiniens.
Oui, tout à fait. Le président Bush a envoyé un message très fort pour les Israéliens, pour les inviter à Madrid et leur dire que, bon, maintenant que l'Union soviétique est tombée et que la guerre froide est terminée, il n'y a pas de raison de ne pas commencer une conférence de paix. Et effectivement, c'est à cause de cette pression que la conférence de Madrid a créé des résultats et qui étaient surtout la reconnaissance de l'OLP, la reconnaissance d'une autorité palestinienne, le début des négociations qui vont être très longues, 20 ans après ça, mais aussi un traité de paix avec la Jordanie aussi.
Est-ce qu'il a eu un peu d'influence sur l'Afrique?
Oui, le président Bush a été le président qui a adressé le Congrès américain et leur a dit « L'Afrique, c'est le futur. Le passé colonial est terminé. Et donc, il faut adresser les conflits qui existent en Afrique, surtout dans les zones de conflits ethniques. Mais il faudrait combattre le sida, il faudrait combattre les autres menaces contre la santé. Et effectivement, c'est le président Clinton et le président Bush qui ont suivi Bush le premier, qui se sont intéressés en Afrique. Et donc l'Amérique a eu, après la guerre froide, une politique africaine qui n'existait pas avant.
C'est C'est la fin de cette édition. À la mise en ondes de Sims Loumami, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.
Les passes